et lente la stupéfiait, à l'automne seulement, quand on avait fermé les fenêtres de la chambre, et plus tard rentré les bêtes à l'étable, Annette avait entendu le langage de la maison, de son armature, de ses jointures raidies de froid, de sa grande carcasse sèche, toute suspendue à l'épine dorsale de la charpente rousse dont au début Eric avait compté et reconté les poutres, sans jamais arrêter son calcul, la tête renversée, bouche ouverte, tenace et nuée, suivant du regard les acrobatiques agissements des hirondelles empressées auprès de leur nichée. Paul l'avait expliqué que les hirondelles reviennent chaque année dans les maisons. Si elles ne reviennent pas, ça n'annonce rien de bon, mais à Fridière, elles étaient toujours revenues. Paul ne se souvenait pas de saison sans hirondelles. Les oncles non plus qui étaient nés là n'avaient jamais quitté la maison et n'oubliaient rien des choses anciennes. Alors, on était tranquille, avait conclu l'Éric rapportant à sa mère cette conversation entre hommes. Un peu plus tard, il avait ajouté, crieur, que d'après Paul, on savait pour le ronflement d'Apocalypse qui, tôt dans la nuit, montait, puissant et souverain, impérial et tonitruant, des chambres du dessous, était celui de Nicole. Elle s'en trouvait mortifiée, refusait de le reconnaître, poursuivant d'une nire acerbe qui concausait dans sa présence la plus infime allusion à certains ronflements sonores dont on pouvait, à Fridière, être bercé en début de nuit, au moment de trouver le sommeil. La nièce poussait l'art du camouflage jusqu'à prétendre être elle-même raccommodée chaque soir par l'éblouissant numéro de duettiste des oncles qui semblait se donner la réplique d'une chambre à l'autre. Plus volontiers disèrent la nuit que le jour, Annette avait souri, émue soudain de voir une confiance toute neuve pousser sa pointe douce entre Éric et Paul, amusée aussi, un instant, de penser à cette Nicole revêche et guerrière, vainement empressée, depuis des années sans doute, à bouter hors du logis le soupçon rigolard d'une supplémentaire disgrâce. Les oncles, à plus de 80 ans, avaient dû se résigner et comprendre qu'ils ne pourraient plus entretenir seuls le considérable potager qui était leur glorieux apanage. Tout le pays savait qu'ils avaient la main verte. Le gel ne les surprenait pas. Eux, ils se jouaient, eux, des aléas du climat, des printemps avares, des hivers doucereux, des étés trop secs, des invasions de rats aux pieds et autres fantaisies fin de siècle. Ils travaillaient parfois ensemble, mais se succédaient le plus souvent selon un ordre mystérieux autant qu'impeccable, sans que l'on pût jamais surprendre entre eux la moindre controverse au sujet du jardin. Alors que la chamaillerie goguenarde, à propos de tout et de rien, la sourde et sempiternelle et fraternelle querelle, était leur seule façon connue de vivre ensemble. Tous deux pareillement juchés, torse noueux, sur de hautes pattes d'araignée, lancés à près d'1,90 m, à une époque et en des contrées où la plupart des hommes se contentaient d'1,75 m, voire 70, et se présentaient campés sur de fortes jambes courtes, les oncles devaient une part essentielle de leur réputation de singularité à ces corps incongrus dont la ressemblance n'avait cessé de s'accroître avec l'âge. Ils avaient été superbes et faisaient de splendides vieillards, aux yeux clairs, aux cheveux très blancs et drus, aux gestes précis et élégants, voués au travail féroce, autarcique, quasiment mutique en société, et à ce titre, peu recherché, sauf à des fins utilitaires, ils ne s'étaient jamais répandus après boire dans les cafés, sur les champs de foire, ou chez les voisins. Ils n'avaient d'ailleurs pas bu, ni fréquenté les cercles de chasseurs, ni rejoint en leur jeune âge le corps municipal des pompiers volontaires. Ils ne furent d'aucune guerre, trop tendres pour la seconde, trop vieux pour l'Algérie. Ils n'avaient pas quitté le pays, si ce n'est pour le service militaire accompli dans les chasseurs alpins, et dont ils parlaient peu, marquant seulement un certain étonnement d'avoir vu là-bas, pour la première fois, de bonnes vaches qui n'étaient pas dessalées. Ils avaient à peine connu Aurillac, et encore moins Clermont-Ferrand, ou Paris, ou le monde d'inouï dont la télévision leur déversait à domicile l'inintelligible rumeur. Ils n'avaient pas désiré d'autres horizons, et quoique relativement tôt délivrés de la tutelle parentale, leur père et mère ayant sans atermoiement notable vidé la place à un âge décent, les oncles ne semblaient pas avoir cherché à prendre femme ni à garnir la maison. Du moins n'en parlaient-ils pas, et de circonstances plus étonnantes, n'en parlait-on pas autour d'eux, on les confondait parfois, ce dont ils s'amusaient sourdement, on les croyait jumeaux, ce qu'ils n'étaient pas à 15 mois près, on les considérait peu ou prou comme des sortes d'originaux dont le moule était cassé, et qui méconnaissaient leur bonheur d'avoir auprès d'eux, pour les accompagner en leur vieillesse et leur succéder, un neveu et une nièce praticables et providentielles, et chacun de sourire aux brusqueries de l'abrupte Nicole. Mais bussent-ils échoué tôt ou tard les oncles orgueilleux, sans Nicole qui s'y entendait à soigner les vieux, les siens et ceux des autres, dans toute la commune, courant d'une maison à l'autre, 2 heures ici et 2 heures là, à la sable, affairée d'expédiente, ou à la maison de retraite de Riom, Talange ou de Condat, attendre l'heure de la soupe, récurée, au chaud, coquille vide, suspendue dans le rien. Quant à Paul, on le trouvait brave et bonne patte, et pas fainéant, et plus malin que tous les autres, au bout du compte, puisque la force de tenir et de vouloir, de regimber et de résister, il avait emporté le morceau. Les oncles avaient cédé. Paul restait seul maître à bord, décidant de tout la fridière, conduisant ses affaires, traitant avec les marchands de son choix, renouvelant le matériel et le cheptel à sa guise, sans plus se soucier des ultimes braiements des oncles, réduits à l'impuissance par leur seul défaut de